Général Lelac, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder cet entretien.
Merci aussi de m'avoir invité dans votre studio.
On est au siège des Nations Unies, au premier jour de la réunion de jour de haut niveau, de mi-parcours sur le cadre de Sendai. Vous êtes donc le directeur général du Bureau national de la gestion des risques des catastrophes pour Madagascar. Quel est votre objectif lors de cette réunion de deux jours?
En fait, le but, tout d'abord, comme vous savez, Madagascar est parmi les pays très vulnérables dans le monde parce que les pays sont vulnérables au changement climatique et avec une augmentation des aléas naturels tels que les cyclones, les inondations, la sécheresse et aussi les infestations acridiennes. Je vous donne quelques exemples. Tout d'abord, en 2022, 6 cyclones ont frappé Madagascar, dont 2 étaient classés comme les cyclones tropicaux intenses. Et en 2023, c'est-à-dire cette année même, le pays a été touché par les cyclones tropicaux intenses Freddy, qui a battu donc des records de trajectoire de longévité. C'est pour vous dire que vraiment, Madagascar est très vulnérable par rapport aux catastrophes naturelles, on dit. Mais pour moi, ce n'est pas d'origine naturelle, c'est les gens qui ont créé la destruction des natures, donc qui devient des catastrophes après. Donc l'objectif, parce que nous avons effectivement parmi les pays qui a adopté et qui a impliqué aussi dans le cadre de Sendai, et on est donc à mi-parcours de ce cadre de Sendai. Donc l'objectif, comment atteindre, parce qu'il y a donc année qui est bien déterminée 2015-2030. Donc on a essayé de faire le maximum le pays et nous sommes ici pour mesurer ce qu'on a déjà engagé, où en sommes-nous en ce moment. Donc tout cela, c'est très important pour nous.
Justement, c'est une réunion de mi-parcours, vous l'avez dit, il y a un rapport qui fait état d'un bilan bien mitigé. Et Madagascar qui est confronté à de nombreux phénomènes extrêmes. Qu'a fait Madagascar depuis l'adoption du cadre Sendai?
Oui, en fait, le gouvernement malgache a fait des efforts pour inverser la tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous avons déjà donc la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes et nous avons aussi notre stratégie nationale en GRC. Et des cadres également donc législatifs solides ont été mis en place. Et la gouvernance et la gestion des risques ont été améliorées avec la création de deux structures à Madagascar en GRC. Donc il y a donc le niveau stratégique, il y a aussi le niveau opérationnel. En fait, le niveau opérationnel, c'est le BNGRC qui s'en charge. Et aussi, le BNGRC, c'est-à-dire le gouvernement malgache, a mis en place de bureaux territoriaux. À Madagascar, nous avons 23 régions donc, au niveau national, et dans les 17 régions sont très vulnérables. Donc, l'engagement du gouvernement de mettre en place de bureaux pour faire la coordination de chaque région qui sont très vulnérables.
Donc, c'est des bureaux régionaux
en fait. Tout à fait. Voilà, justement, aussi, nous avons déjà en place, le système d'alerte a été aussi affiné et la technologie utilisée pour améliorer son efficacité. En outre, le secteur privé, les universités, les centres de recherche et les communautés locales sont impliqués dans la solution aussi. Donc, les solutions basées sur la nature sont privilégiées, telles que la réforestation et la plantation d'espèces pour lutter contre le déplacement des dunes. Et il y a aussi donc la stratégie gouvernementale qui vise à combiner les réponses d'urgence et les activités de résilience pour promouvoir le développement durable. Et enfin, peut-être, nous avons une collaboration très sérieuse avec le parti prenante international et national, essentiel pour optimiser les impacts et de ne pas laisser donc les personnes à côté.
Si on prend un exemple concret comme Batira ou Mnati, vous avez vu, donc Madagascar s'est préparé en avance, sachant que le cyclone arrivait et il y a eu une mise en place de préparation. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, décrire un peu?
Oui, effectivement, comme vous savez très bien, dans les cadres des Sendai, n'oubliez pas que dans le 5 prioritaires, si je ne me trompe pas, c'est la prévention qui est très importante. Donc on a appliqué cela. on a vraiment faire donc de mieux se préparer par rapport aux réponses donc à la prévention. C'est-à-dire avant d'arriver, parce que nous travaillons étroitement avec la Direction générale de la météorologie donc de Madagascar. Et n'oubliez pas que leur rôle, c'est que de transmettre, de diffuser donc les données techniques. Mais c'est le BNGRC qui essaie de mettre en œuvre donc ces informations-là pour la population et les autorités dans chaque région à Madagascar se préparent par rapport aux instructions données par le BNGRC, par nos techniciens, parce que nous avons déjà en place maintenant. Un jour, si vous allez passer à Madagascar, je vous invite de passer au BNGRC pour voir notre centre de coordination au niveau national. Donc, et pour cela, on a donc déployé de l'avant pour la prévention, comme j'ai dit, pour se préparer, pour renforcer la capacité des autorités dans chaque région.
Et après, il y a un suivi tout de suite après pour évaluer les dégâts et commencer le soutien.
Absolument, parce que après, donc, c'est-à-dire post-catastrophe, tout d'abord, ça fait partie des activités du BNGRC de faire la réponse d'urgence pour que la population soit donc, comment on dit ça, pour faire donc leur résilience par rapport au choc. Donc, ça, c'est incontournable de faire d'abord la réponse d'urgence et ensuite de travailler avec tous les secteurs clés, parce que c'est ça le mandat du BNGRC. De faire la coordination de tous les acteurs humanitaires à Madagascar, que ce soit au niveau de l'État, c'est-à-dire tout le département ministériel concerné, et évidemment avec les acteurs au niveau donc du secteur privé, des agences des Nations Unies, etc., etc.
Alors, quand on parle de prévention à l'approche d'un cyclone ou d'un phénomène extrême, ça veut dire quoi concrètement? Comment est-ce que la population peut se préparer? Comment est-ce que les autorités peuvent préparer le terrain?
Ok, donc il y a le cycle de phase de GRC, y compris la prévention, la préparation, etc. C'est quoi donc les activités concrètes par rapport à la prévention? Tous les ans, chaque année alors, nous avons fait la mise à jour. Comme je disais avant, au début de notre conversation, nous avons la politique et la stratégie de GRC à Madagascar. Et nous avons donc pas mal de plans de contingence. Il y a des cyclones, il y a des inondations, il y a des sécheresses, etc., etc. Qui, évidemment, une chose que je voudrais souligner ici, c'est pas seule l'institution, le BNGRC, qui élabore les différents plans de contingence, mais on a fait avec tous les acteurs à Madagascar, les partenaires du BNGRC. Concrètement, donc, c'est quoi les activités? Nous avons fait chaque année la mise à jour des plans de contingence. C'est-à-dire, il y a des leçons apprises par rapport, par exemple, donc, à l'arrivée de notre aléa, et il y a des choses toujours améliorées. Donc, comment améliorer le plan de contingence? Ça, c'est une chose. Aussi, nous avons la sensibilisation des gens, de la population, des communautés dans chaque région. Et surtout, nous avons chez nous, au BNGRC, il y a 4 directions qui constituent donc la direction générale. Il y a une direction qui ne fait que juste pour faire. Donc, on appelle CEVO, Centre d'études, de réflexion, de veille, orientation. C'est-à-dire, c'est à la charge de cette direction de faire donc la sensibilisation des gens avec les services de communication chez nous, avec nos techniciens, tout cela. Et aussi, ça fait partie de prévention aussi, de mettre en place, avant l'arrivée avant même donc, l'arrivée d'un aléa, de mettre en place de matériel. Et nous avons pas mal de conventions avec, parce qu'au BNGRC, il n'y a pas de techniciens, par exemple, de gens qui sont spécialistes de sauvetage de vie. Mais on travaille avec l'armée, par exemple. Nous avons une convention. C'est-à-dire, moi, je peux déployer directement l'armée sans passer par le ministre de la Défense nationale ou le chef d'état-major. Mais tout juste parce que c'est déjà écrit dans notre convention. Mais tout simplement, ce sont les chefs quand même, parce que moi, je suis quand même militaire, de faire le compte-rendu. Comme quoi, mon général, monsieur le ministre, on a déployé une telle équipe dans un endroit comme ça, avant l'arrivée même de l'aléa. C'est pour vous dire, ça fait partie de tout cela, donc, la prévention, c'est-à-dire de renforcer la capacité de lieu qui est probablement frappé par l'aléa.
Vous mentionnez les stratégies, vous mentionnez une évaluation qui est faite chaque année pour tirer les leçons. Quelles sont les prochaines étapes pour la mise en œuvre du cadre de Sendai pour Madagascar?
Oui, on attend d'abord l'arrivée de 2030, donc la fin de ce mandat donc, du cadre de Sendai. Madagascar a quand même déjà avancé. Moi, j'ose dire ça, parce que c'est la réalité, effectivement. Par exemple, pour témoigner à ça, Freddy, il y a 3 pays qui sont frappés par Freddy. Hein. Mais quand on regarde le bilan, Madagascar a quand même pu dire qu'on a, pour ne pas dire maîtriser la situation, peut-être ce n'est pas ça. Mais quand même, on a essayé de faire le maximum. Et le bilan qui le témoigne. Donc, est-ce que nous attend de toujours suivre la recommandation des 400 d'améliorer ce que nous avons déjà engagé, de travailler, comme je disais, avec tous les acteurs qui soutiennent le gouvernement malagasy, et de faire des échanges aussi de pays, des régions qui suivent ce qui est recommandé dans le cadre de Sendai, c'est-à-dire de faire des échanges entre les expériences avec tous les pays.
C'est un peu ce que vous allez faire ici au cours des
Tout
deux jours.
Tout à fait, absolument, absolument.
Avec quoi voulez-vous repartir de ces réunions?
On a essayé. Et on va continuer toujours, d'abord, comme je disais, d'avoir pas mal d'échanges avec les pays amis. Hier même, nous avons déjà un rendez-vous avec le Nigeria. C'est pour vous dire que, d'avoir le maximum d'échanges avec les pays, parce que nous sommes tous concernés par le dérèglement climatique. Donc, tous les pays sur cette planète sont concernés. Donc, nous allons essayer d'avoir beaucoup d'échanges, pourquoi pas, de solliciter les appuis des pays amis de Madagascar. Tout cela, ça fait partie de notre objectif.
Échanger les solutions.
Tout à fait.
Dernière question, vous êtes donc le directeur général du BNGRC à Madagascar, donc le bureau qui se charge de la gestion des risques et catastrophes. Vous avez dû témoigner à différents moments de situations difficiles. Est-ce qu'il y a une rencontre ou un événement qui vous a marqué et qui vous a inspiré à vraiment vouloir gérer, faire ce travail, vous vouer à ce travail?
Oui, avant d'être directeur général du BNGRC, j'étais déjà directeur d'opération du BNGRC depuis 2009 jusqu'à 2014. Et après, il y avait donc une interruption. Et depuis 2019, j'étais désigné comme à la tête de cette institution. Pourquoi je vous raconte ça? Pas mal de problèmes que j'ai vécu au BNGRC par rapport aux problèmes pour sauver la vie des gens, par rapport au changement climatique, par rapport à ce qui se passe sur notre planète. Et une chose qui m'a remarqué, c'est-à-dire... À Madagascar, il y a 3 phénomènes qui sont vraiment des choses qui sont vraiment pas faciles à affronter. Les cyclones, j'ai déjà parlé tout à l'heure, en 2022, 6 cyclones qui ont frappé donc Madagascar. Et 2 sont très très intenses, hein, Batsira et Emnati. Donc les inondations, les cyclones, la sécheresse, ce sont les phénomènes qui ont marqué beaucoup mon existence au BNGRC. Mais quand même, j'admire beaucoup les efforts fournis par le gouvernement malagasy pour affronter, pour résoudre, ces problèmes complexes. En tant que militaire aussi, c'est pour la patrie, pour sauver la vie des gens. Donc c'est de mon métier. Et le second métier, c'est que pour sauver, donner la solution à la population, à la communauté qui est vraiment très fragile.
Est-ce que vous avez vu une évolution justement dans comment la population vit les aléas? C'est-à-dire que vous êtes là depuis 2014 ou même avant. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ce que la population vivait à l'époque et aujourd'hui?
Absolument oui. Malgré l'intensité de ces phénomènes-là, je mesure toujours avec le bilan, donc les archives. Donc le bilan au niveau de décès, au niveau de blessés, de disparus et tout cela. Donc je vois qu'une évolution très positive par rapport à ce qui s'était passé avant et maintenant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.